Bonsoir.
Bonsoir. Bah, merci beaucoup d'être venu malgré les grands froids presque sibériens qui s'abattent sur Bordeaux. Voilà, en défaut des robes rouges, il y a une robe blanche qui servira un peu de présentateur à cette rencontre. Et je suis très heureux de présenter Madame Caroline Pigozzi, donc, qui sort ce livre que vous avez déjà vu, les robes rouges, qui est une série d'entretiens avec les cardinaux donc de l'Église catholique. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, vous êtes d'origine italienne, vous avez fait vos études secondaires à Rome dans une école tenue d'ailleurs par les sœurs dominicaines, vous avez fait vos études de journalisme à New York University,
c'est ça.
Vous avez travaillé au Figaro Magazine, après à Paris Match, vous avez fait...
Je suis toujours à Paris Match,
vous êtes toujours...
19 ans.
Voilà, c'est ce qu'on commence à faire.
Oui.
Vous avez fait un livre d'entretien avec Jean-Paul II, Jean-Paul II intime, qui est paru en 97, ce vrai
99.
99.
Non, j'ai écrit en 99 Le Pape en privé.
D'accord.
En 2003, Jean-Paul II intime.
Bon, voilà.
Et en 2007, les ambassadeurs de Dieu.
Voilà, donc ce qui fait que ça fait un long moment que vous occupez des questions liées à l'Église catholique. Qu'est-ce qui vous a
ça
fait ?
Ça fait 15 ans, mais je ne suis pas théologienne. Je
bon,
tiens
oui.
à le préciser. Je suis d'abord journaliste et seulement journaliste et écrivain.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ce domaine-là plutôt que d'un autre ?
On entend là ? D'abord, j'étais journaliste politique et... J'ai trouvé ça très intéressant jusqu'au jour où les hommes politiques ont été complètement formatés, fabriqués et entre les mains des directions de la communication, c'est-à-dire qu'ils sont tous mis à avoir des discours très convenus, très ennuyeux, très... on avait l'impression qu'on appuyait sur un bouton et on entendait un peu toujours la même chose, où j'ai eu l'impression que ce n'était plus des orateurs et que, au-delà de leurs convictions, ils étaient dans un système... qui n'était pas du tout intéressant.
Vous trouvez plus de diversité, de débats, de divergences parmi les hommes d'église que parmi les hommes politiques ?
D'abord, je leur trouve beaucoup plus de talent, beaucoup plus de culture, beaucoup plus d'authenticité, et ils croient quand même à 95% à ce qu'ils disent. Ce qui est peut-être pas
ce qui
toujours
est déjà
le cas.
Une bonne moyenne.
Voilà, à mon avis, ce qui n'est pas toujours le cas des hommes politiques.
D'accord. Comment vous est venue l'idée de ce livre d'entretien avec les cardinaux ?
Je les ai vus évoluer pendant de longues années, parce que ça fait 15 ans que je suis des questions religieuses à Rome. Et à chaque fois que je parlais des cardinaux avec les gens, j'avais l'impression qu'ils avaient une idée fausse, une idée inexacte, qu'ils voyaient des princes de l'Église vivant comme au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, avec des carrosses, des voitures magnifiques, enfin, une idée complètement qui ne correspondait absolument, en grand décalage avec la réalité. Et j'ai eu envie de raconter en fait ce qu'était leur vie, donc évidemment de faire des portraits. Les portraits, c'est forcément toujours un peu subjectif. Et donc je leur ai donné la parole, ce qui me semblait plus juste et plus intéressant pour le lecteur aussi. Donc il y a 20 portraits et des interviews qui suivent derrière.
D'accord. Cela vous a demandé beaucoup de travail parce que ce sont les hommes venant des horizons extrêmement différents. Vous avez des
cardinaux. Ça a demandé 15 ans de confiance avec le Vatican et 2 ans... complètement plongé dedans, parce qu'en plus il y avait un glossaire à faire, des notes, et que je les ai interviewés très peu en français, j'en ai interviewé 4 en français, donc ça voulait dire traduire. Il n'y a que moi qui pouvais le faire parce que c'est pas un travail qu'on peut donner à une société de traduction ni à un traducteur, parce qu'on en perd une partie. Et puis je prenais tellement de notes pendant qu'il parlait qu'il y avait des notes tout autour de la feuille pour décrire, parce qu'après ça il fallait faire le portrait, et donc c'était intraduisible par quelqu'un d'autre. C'est vraiment un travail personnel, c'est pas du tout un travail qu'on peut même faire collectivement.
Mis à part le fait que ce soit des hommes sûrement assez pris, est-ce que ce sont les hommes abordables, faciles d'accès, aimables, froids,
alors, très...
hautains,
non,
différents
bon, humbles plus qu'hautains pour la plupart, ce qui n'est pas l'image qu'ils ont quand vous pensez que le primat américain...
l'archevêque de Chicago.
L'archevêque de Chicago qui représente... 23%, parce que le lobby aux États-Unis est un point important, 23% de la population américaine et catholique à travers les communautés d'origine polonaise, d'origine irlandaise, d'origine latino-américaine, qu'aux États-Unis les lobbies sont puissants, donc c'est un lobby très puissant, et que le personnage de Cardinal Archevêque de Chicago est un homme d'une simplicité, d'une modestie et d'un abord extrêmement facile, on est assez impressionné. Et de même pour le patriarche de Bagdad, personnage extraordinaire, qui est, alors lui, c'est un personnage, il acceptait d'être interviewé que dehors, dans un jardin, parce qu'il a des vieux réflexes des pays de guerre, il a toujours peur qu'on l'écoute. Et ce sont des gens, il faut acquérir leur confiance, savoir le moment opportun, lever son stylo, les écouter sans écrire, mais ce sont des gens, au fond, beaucoup plus abordables que les hommes politiques, et ils ont une qualité rare dans la vie actuelle, ce sont des gens qui écoutent ce qu'on leur dit. Quand on pose une question, ils écoutent avant de vous répondre. Et en plus, ils ont une chose assez sympathique, c'est que la notion du temps et de l'efficacité, du rapport au temps, n'est pas la même que dans la vie civile, ce qui fait qu'on est beaucoup moins stressé quand on les interviewe, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont un chronomètre dans le ventre qui vous donne 14 minutes et demie et qui passe à autre chose après. Ça prend le temps que ça prend, et ce qu'ils veulent, c'est la qualité. Plus que, bon, et alors le gros problème, c'est qu'ils sont tellement cultivés que moi, je ramais derrière. Quelquefois, j'ai prononcé des mots que je ne connaissais absolument pas, ce qui fait que j'avais des notes sur le côté de mes feuilles, et je passais ma nuit dans les dictionnaires essayer de comprendre ce qu'il m'avait dit, parce qu'en plus quelquefois il le disait en latin, alors je leur disais piano eminenza piano, alors ils répétaient légèrement agacés parce qu'ils avaient l'impression que tout le monde parlait latin comme eux, que c'était
quelque chose d'une banalité, impoli de penser autrement,
oui, non, que ça paraissait d'une banalité extrême de pas parler latin, c'était impensable.
Il faut dire que votre livre est muni d'un glossaire à la fin qui peut s'avérer très utile, qui donne des termes clés pour comprendre ce qui se passe.
Oui, parce que le glossaire, j'ai d'abord pensé que le lectorat, on n'est pas journaliste depuis 19 ans à Paris Match sans en avoir d'abord les réflexes, que le lecteur de Paris Match, donc qui était le lecteur que je visais, donc un lectorat très large parce qu'on a 4 millions de lecteurs, n'était pas forcé de connaître toutes ces questions-là, tous les termes. J'ai pensé au lecteur de Paris Match, j'ai pensé à mes enfants que j'ai testés. Quand mes filles bâillaient, quand je leur lisais une phrase, je me suis dit que ça n'allait pas, qu'il fallait mettre une note. Alors il y a d'un côté les notes, de l'autre côté le glossaire. Et ça aussi, ça a pris beaucoup de temps, parce que bon, ça demande, si on ne veut pas faire un travail obscur, il faut que ça soit pas écrit comme un dictionnaire des religions, mais comme quelque chose d'une grande clarté.
Donc il fallait traduire pas simplement de l'italien en français, mais en plus de
cardinalis... quelquefois de l'espagnol, de l'anglais, et puis surtout, il faut quelquefois traduire les silences. Vous qui venez d'un pays... communiste, un ancien pays communiste, vous savez combien les silences sont souvent plus évocateurs que ce que disent les gens. Donc les points d'arrêt, ou quand tout à coup ils se grattent la tête, ou quand tout à coup... Et c'est ça qui était plus important, c'était les attitudes étaient largement aussi importantes que leur discours.
Bien sûr. En même temps, vous dites que ce sont des gens qui possèdent une forte personnalité, qui ont l'opinion propre. Mais à travers, en lisant votre livre, on voit qu'en répondant aux questions, il y a une grande, je dirais, convergence d'opinions, d'avis sur les questions d'actualité, sur, je sais pas, le rôle du pape, sur le célibat des prêtres, etc., qui se profilent derrière leurs réponses.
Vous voulez dire qu'il y a une unité dans leur discours?
Voilà.
Oui, sur les grandes questions, oui. Les deux questions sur lesquelles ils disent à peu près tous la même chose sont, à mon avis, les seules d'ailleurs, c'est le mariage. Ils sont pratiquement tous contre le mariage des prêtres. La première raison, à mon avis, est personnelle, c'est qu'ils ont fait le sacrifice de leur vie pour l'Église, où ils ont donné leur vie d'ailleurs avec une certaine joie, parce qu'ils dégagent pour la plupart d'entre eux beaucoup de sérénité. Donc ils ne voient pas pourquoi les générations suivantes devraient se marier. En plus, ils ont ce qu'on n'a pas dans la vie civile, des statistiques très précises, qu'ils m'ont montré d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, où ils constatent que dans la religion protestante, dans la religion orthodoxe, où les prêtres peuvent se marier, ça n'exclut pas des problèmes, et que le problème de la crise des vocations existe pratiquement autant dans les autres religions où le clergé peut se marier. Et donc ils trouvent que c'est pas une des solutions. En fait, ce qu'ils disent plus volontiers, Mais là, ils osent peut-être pas vraiment le dire dans ces occasions-là. Ils sont presque tous, ils pensent qu'on arrivera souvent à la consécration d'hommes mariés. Ça, c'est autre chose. Mais le mariage des prêtres, ils sont férocement contre. Et c'est pas, je dirais pas tant pour des questions d'idéologie que pour des questions de pratique. Ils ont déjà tellement de mal à trouver des gens qui veulent les seconder, les aider, rester avec eux, que si en plus... ils se disent que si les prêtres ont une famille, trois enfants à faire travailler le soir, etc., enfin, ils voient déjà les difficultés de la vie quotidienne, que ça ne s'accorde pas tellement avec le mariage.
Ces réponses vous ont paru convaincantes ou un peu en discours ?
Non, toutes leurs réponses m'ont paru convaincantes. Le seul sujet sur lequel il y a une harmonisation qui est presque technique, enfin qui c'est le sujet qu'ils aiment pas aborder, enfin c'est pas qu'ils aiment pas l'aborder, sur lequel ils disent tous la même chose et on n'est pas toujours sûr que ça corresponde absolument à la réalité. C'est bon l'avortement, mais ça ils disent ils peuvent quand même pas dans leur situation dire c'est bien de se faire avorter, mais ils sont beaucoup plus tolérants, ils comprennent parfaitement qu'une femme qui est mère de 6 enfants et qui a des petits moyens on arrive à l'avortement. Le comprendre, c'est une chose, le pardonner aussi, le prôner, c'est autre chose. Et je crois que c'est la question du sida aussi. Ils sont en fait tous tout à fait d'accord avec l'idée du préservatif, mais c'est un vocabulaire qu'ils ne veulent pas employer et qui, voilà, qui en tout cas, vu de Rome, est difficile à employer. Après ça, si on les voit et qu'on les regarde droit dans les yeux et qu'on leur en parle, il est clair que sur ces deux questions-là, ils sont très ouverts. Mais bon, ça fait partie... quand on est à la tête de l'Église, c'est difficile. Et quand on est le premier archevêque de son pays, c'est difficile. Et qu'on sait qu'éventuellement, ce qui est écrit a de grandes chances d'être pris, c'est difficile de dire ce genre de choses. C'est le seul point sur lequel je les ai trouvés ambigu et embarrassé.
D'accord, donc il y a un certain jeu entre le fonctionnaire et le pasteur.
Non, il y a pas. C'est pas tant un certain jeu que c'est une responsabilité qu'ils veulent pas être appelés à l'ordre par le cardinal secrétaire d'État. Parce que bon, c'est pas le pape qui rappellera à l'ordre, mais ils ont pas tellement envie d'en recevoir un coup de téléphone du cardinal Tarcisio Bertone leur disant écoutez, qu'est-ce que c'est que ces déclarations, parce que c'est quand même un gouvernement très hiérarchisé, donc sur soi pas de claque, c'est mieux. Même s'ils sont pour la plupart d'entre eux, contrairement à ce qu'on voit de l'extérieur, pas carriéristes, c'est-à-dire ils sont à un stade où ils en sont plus au problème de la carrière.
On pense quand même que parmi les personnes que vous avez rencontrées, qui sont très souvent les primats de leur pays, les figures extrêmement marquantes, il y a cette grande question qui revient tout le temps.
Qui sera le prochain pape ?
Qui sera le prochain pape ?
On ose le dire, en cas de vacances du siège apostolique, qui sera le prochain pape ? Alors ce qui est sûr, c'est que... Je reviens à ça, pas pour faire de la publicité pour Paris Match, mais quand on est journaliste, quand on est journaliste à Paris Match, et qu'on a un peu le scoop dans la tête, parce que c'est un peu comme ça, notre journal, il est sûr, et aussi par défi, et il est sûr qu'on a envie de traquer et d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver parmi les... On entend, là ? D'essayer de comprendre parmi les cardinaux, entre guillemets, candidats, qui sont ceux qui ont une chance d'être pape. Moi, j'en ai... cerné 4. Je fais un quartet. Après ça, comme chacun sait, le timing joue un grand rôle, parce que c'est vrai. J'avais beaucoup de chance parce que quand le pape Benoît XVI a été élu, je l'avais écrit quelques mois avant dans Paris Match. Donc je me disais, on a 119 chances de se tromper, je ne m'étais pas trompée. Là, pour moi, il y en a 4. D'abord, je pense que pour être pape, il faut quelque part en avoir envie aussi. Enfin, je veux dire... Il faut se mettre dans une logique de...
Il faut accepter.
Se mettre même dans une logique aujourd'hui de, entre guillemets, c'est un vilain mot pour l'Église, mais de campagne. Il faut être en situation internationale. C'est-à-dire qu'il me semble assez difficile aujourd'hui, avec la mondialisation, d'imaginer que le prochain pape puisse être un pape qui soit... très italien, qui ne parle pas les langues, qui n'est pas voyagé, qui n'ait pas été pasteur à l'étranger, qui n'est pas... Ça semble une chose un peu étrange. Alors, bon, moi, il y en a quatre qui m'ont pas seulement paru avoir le profil, mais paru en avoir envie et faire... en fait, se positionner sur le plan international. Alors, en Amérique latine, il y a le cardinal Oscar Andrés Maradiaga, qui est une grande figure d'Amérique latine, qui en plus, ça a l'air peut-être superficiel de le dire, mais il faut avoir un physique. Je pense qu'aujourd'hui, un pas petit maigrichon et fluet, c'est peut-être injuste, mais aurait...
Enfin, mais pourquoi vous n'aimez pas des maigrichons ?
Non, j'aime tout à fait, mais je pense que l'image, je pense que la télévision, Internet et tout ça font qu'il faut occuper l'écran. Et que donc, il faut presque avoir un physique, un peu. Donc, le cardinal Maradiaga, il a d'abord un physique de pape, en plus, il parle 7 langues, il est président de Caritas International, il est très pastoral, il fait beaucoup de terrain, il en a envie. C'est un personnage qui parle d'égal à égal avec les hommes politiques parce qu'il essaye de défendre et de promouvoir Caritas Internationalis et qu'il a un seul défaut, c'est qu'il est trop sympathique à mon avis et il fait un peu peur. Il est évidemment le favori des journalistes, mais c'est pas nous qui votons, comme vous le savez, et il fait un peu peur aussi aux instances plus conventionnelles de Rome. Voilà, c'est un cardinal qui décoiffe, comme on dirait dans les radios aujourd'hui. Après ça, il y a un autre cardinal qui est un personnage remarquable, qui est le cardinal primat de Hongrie, qui est cardinal Peter Erdo, qui lui est le plus jeune parmi les cardinaux, il a 57 ans. C'est aussi un personnage très international, qui parle les langues, qui est très pastoral, qui vient quand même d'un pays difficile, qui lui aussi vient du communisme, et qui est président des conférences épiscopales européennes. Donc lui aussi, il a une vitrine internationale. Il a par exemple été reçu par le président Sarkozy il y a quelques mois. Enfin, je dis ça parce que ce sont des personnages qui sont au devant de la scène, qui ont une présence, qui sont habitués maintenant à être en rapport direct, régulier avec les grands personnages, les grands leaders de la planète. Lui aussi est un personnage de premier ordre, mais je crois qu'il est un peu jeune pour l'instant. C'est pour ça que je dis que le timing est important. Il y a un autre personnage qui est plus conventionnel, qui est une figure aussi, et parce que bon, on ne peut pas imaginer qu'un Américain puisse être pape. Pour l'instant, ça paraît encore un peu prématuré, mais qui est le cardinal Ouellet du Canada, qui a eu un certain nombre de voix d'ailleurs lors du précédent conclave, qui est un personnage qui est très proche de Benoît XVI, qui est aussi dans des instances internationales, qui est dans un certain nombre de... qui a des fonctions de conseiller dans un certain nombre de dicastères, qui est le personnage comme ça.
Et aussi un très très grand théologien.
Aussi un grand théologien en plus, ce qui ne gâche rien, et un homme de terrain, parce que le Canada est un grand pays. Et il y a un personnage italien qui me paraît être le seul très international, qui est le patriarche de Venise, qui lui a un physique magnifique, il a déjà l'air du pape. D'ailleurs, il a une attitude de pape, d'ailleurs il accepte de se faire photographier devant Saint-Pierre. C'est celui-là, oui.
Vous ne voyez peut-être pas,
mais bon. Voilà. Et qui, lui, a monté une revue internationale, qui est assez, une très bonne revue internationale à Venise, et qui est aux portes de l'Orient, vu sous l'angle de l'Église, et qui est aussi un personnage intéressant, et qui est sans doute l'Italien qui a le plus de surface, qui est le plus... voilà. Je dirais que ce sont, pour les gens qui s'intéressent à l'avenir de l'Église, ce sont 4 personnages à suivre. Voilà.
D'accord.
Alors, il y a en plus un critère, peut-être un critère subjectif, mais qui compte néanmoins, ce sont des personnages plutôt sympathiques. Voilà.
Vous avez évoqué cette influence internationale, la mondialisation et les choses semblables. Très souvent, quand on pense à l'Église catholique, on a l'idée de quelque chose d'extrêmement lié à un monde occidental, avec les questions de la crise des vocations, etc. etc.
Il regarde les chiffres de la crise des vocations et puis il regarde aussi le cours de la bourse.
Voilà.
Ils font les deux aujourd'hui. C'est ça la mondialisation de l'Église.
Et en même temps, on voit dans vos entretiens les gens venant vraiment des horizons extrêmement différents, géographiques, culturels, sociaux. Il y a des gens qui viennent des milieux tout à fait aisés. Il y a des gens qui viennent des milieux extrêmement simples.
Oui, alors j'ajoute que pour le patriarche de Venise, il a une caractéristique qui est intéressante, c'est que il a l'air d'un prince de l'Église, il a une attitude, il a un physique, et il vient d'un milieu extrêmement modeste parce qu'il est fils de camionneur, ce qui est un symbole intéressant parce que ça montre qu'au sein de l'Église aujourd'hui, on peut venir... Et ses parents lisaient l'Unita uniquement, le journal communiste italien, ce qui prouve qu'on peut à la fois avoir été élevé dans un milieu comme ça extrêmement populaire et atteindre au sommet, presque, parce que quand on est patriarche de Venise, on est le premier des cardinaux italiens sur le plan du prestige, et aussi, même on peut dire que c'est un cardinal très influent. Donc c'est... Voilà, c'est une fusée, une lance de rampement supplémentaire.
Vous avez parlé de l'influence, et c'est la question qui revient souvent dans le livre, la question que vous posez souvent aux cardinaux. Comment est-ce qu'eux, ils conçoivent leur influence ? Parce que quand même, on a toujours l'image du prince de l'Église, donc aussi de quelqu'un qui a une sorte de responsabilité, non pas politique au sens politique d'État, mais quand même qui est une figure publique, qui a du poids, qui assume des responsabilités très grandes, pas nécessairement à cause de ses fonctions, mais déjà par son statut du cardinal.
Vous qui êtes dominicain, vous savez, de missi dominici, vous savez qu'on transmet, il parle, il faut parler à la bonne personne, c'est un jeu de qui, le Vatican ? Il faut parler à la bonne personne qui reparlera à la bonne. Il faut atteindre le Premier ministre très vite, en téléphonant très peu. C'est très... Voilà. Il faut monter au plus haut très très vite en étant très efficace. Les sorties de messe, c'est très important à Saint-Pierre. Ça dépend de quel côté on sort de la cathédrale, de la basilique. Tout ça sont des détails. C'est une vie interne au Vatican. Et quand il y a des grands messes, par exemple, comme il y a eu au mois de novembre, au moment il y a eu une béatification, parce qu'il y en a régulièrement, la béatification de la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, c'était très amusant de voir les cardinaux qui sont sortis tout de suite de Saint-Pierre, le cœur des cardinaux qui est sorti tout de suite, et les quelques cardinaux qui, en réalité, n'avaient pas de raison de sortir en même temps que le pape, parce que sur le plan du protocole, ils n'étaient pas invités à sortir derrière le pape, et qui sont ceux qui sont sortis. Bon, les gardes suisses n'osent pas, après ça, leur demander de s'éloigner. C'est les trois qui ont été parlés au pape. Enfin, il y a tout ce jeu. C'est là où, alors, ils remettent un petit dossier. Enfin, on ne remet pas un petit dossier au pape parce qu'il ne se promène jamais avec rien dans les mains, mais on remet à son secrétaire. Enfin, il y a tout ce jeu de pouvoir en direct, parce qu'on téléphone peu, on ne laisse pas trop de messages, Donc, il faut être extrêmement rapide aujourd'hui.
Et ces gens-là, vous semble-t-il être mais alors là, aussi influents au plan politique, de la politique civile, ou c'est en jeu en tête?
Ah ben alors là, j'ajoute quelque chose. Il y a par exemple, le cardinal Premier ministre est salésien, bon, d'ordre des salésiens, comme vous savez, et il est sûr que si deux cardinaux salésiens s'approchent de lui à la fin de la messe, c'est normal, c'est la complicité des Salésiens qui se disent bonjour, et c'est plus facile. Vous voyez, voilà, ça passe mieux. Donc il y a tous ces jeux de pouvoir dans les occasions publiques aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le pape Benoît XVI reçoit très peu de monde et a complètement coupé avec le style qui est le style du pape Jean-Paul II, qui voyait beaucoup de monde, qui recevait pour le petit déjeuner, qui recevait pour déjeuner. Donc le pape actuel, il faut le cerner, et quand on le cerne, c'est pas facile. Et puis après ça, les cardinaux entre eux, il y a des intergroupes, quoi. C'est comme dans les partis politiques, il y a des gens qui s'entendent entre eux, il y a des amis, des complicités, il y a des gens qui... Voilà, c'est un mini gouvernement. Enfin, mini jeu de pouvoir. Mais ils sont plus subtils.
Vous évoquez, vous rencontrez pour vos entretiens les cardinaux qui ont un rôle politique extrêmement important du fait de leur situation.
Géographique,
comme sont les archevêques, les primats des grands pays, comme l'archevêque d'Hongrie, comme le primat de Gaulle. Et aussi, vous rencontrez les cardinaux qui représentent les églises persécutées. Oui, qui alors... représentent les églises en situation d'une grande fragilité et sont les témoignages tout à fait bouleversants.
Ça, vous pensez au cardinal de Bosnie-Herzégovine, bien sûr, et
au patriarche de Bagdad, évidemment, au cardinal chinois.
Et au cardinal chinois. Et alors, le patriarche de Bagdad, ce qui est physiquement très étonnant, c'est quand on lui parle, il se retourne toujours pour voir s'il y a quelque chose derrière lui. Ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'il a encore ses réflexes. Et quand il est à Rome, il le dit lui-même, il est complètement désorienté par le silence. Il n'est pas du tout habitué à se trouver dans une ville où il n'entend pas le bruit des hélicoptères, le bruit des mitraillettes, le bruit. Et il est presque désemparé. C'est une chose, il dit que le silence...
Et pourtant, Rome, comme une ville silencieuse...
Oui, mais vous savez bien que le Vatican, dehors des cloches et des applaudissements, quand on voit passer un cardinal ou le pape, on n'entend pas beaucoup de bruit. C'est quand même un lieu de silence. On entend quelques chats qui miaulent de temps en temps à côté de Santa Marta, mais c'est quand même un lieu silencieux.
Bien sûr. Mais cette rencontre avec l'Église persécutée, avec l'Église en dehors des peut-être grandes pompes, est-ce que ça change la vision de l'Église princière, de l'Église triomphante, de la pompe romaine ?
Complètement, parce qu'ils ne sont pas triomphants. Vous voyez, il y a très peu. Alors, je ne vais pas vous dire, il y en a certains à qui ça fait plaisir, mais c'est un détail, c'est un mini péché d'orgueil. D'ailleurs, il y a un cardinal qui le dit à la fin du livre. Bon, ça ne leur déplaît pas d'avoir leurs armoiries. Ce qui leur fait le plus plaisir, c'est d'avoir leur église dans Rome. Ça, c'est parce qu'ils ont de belles églises et ça, ils célèbrent la messe chez eux. Mais on ne peut pas dire que les péchés d'orgueil soient la chose... Ils font pas, enfin, ça se voit pas tellement. Alors, ils sont tellement intelligents qu'ils le montrent pas.
Quand on lit votre livre, parfois on a l'impression que les cardinaux non occidentaux parlent avec, je ne dirais pas plus de franchise, mais dans un style un peu plus direct,
non,
un peu plus tonique, en plus.
Ils parlent avec plus de franchise parce que d'abord il y a les cardinaux africains qui ont un langage très amusant, qui ont un vocabulaire très amusant. Quand ils me voyaient, ils me disaient tout le temps « Vous êtes hautement informés », parce que c'est leur façon de s'exprimer. Et puis bon, les cardinaux africains disent, sans que ça les gêne une minute, ils disent « Bon, ben voilà, la vérité de l'Église africaine, elle est ce qu'elle est. En Afrique, beaucoup de prêtres ont eu des enfants, il faut faire avec. Et je ne vois pas pourquoi je ne vous le dirais pas. Et simplement, dans beaucoup de pays, c'est comme ça, sauf que chez nous, les gens, quand ils ont des enfants, prêtres compris, sont tellement contents qu'ils le racontent. Ce qui demande un certain courage, quand on sait que, c'est un livre qui va traîner dans les hautes sphères romaines, il faut quand même le dire.
Mais aussi, j'ai l'impression qu'ils prennent leur distance beaucoup plus nettement vis-à-vis de leur pouvoir sur place. C'est-à-dire, il y a une critique du gouvernement...
Vous pensez aux Chinois, là, qui dit des choses
Chinois,
très amusantes.
Et aussi, bien sûr, aux cardinaux africains. On imagine mal un cardinal français se prononcer avec une telle franchise sur la situation politique du pays.
Non, mais c'est-à-dire que ceux qui sont en Europe sont plus imprégnés de la vision de Rome, parce qu'ils viennent souvent, parce que c'est moins loin pour ils viennent quand ils ont des réunions de dicastères, tandis que les étrangers, le cardinal chinois, le cardinal indien notamment, le cardinal Delhi, un personnage qui était très proche de Mère Teresa, pour eux c'est une expédition de partir pour Rome, et c'est un autre univers. C'est-à-dire qu'ils vivent, le cardinal de Delhi vit dans un univers où il y a moins de 1% de catholiques en Inde,
oui,
en plus, où ils sont persécutés. Oui.
Vous soulignez qu'ils viennent très souvent des milieux des intouchables.
Oui, et donc pour lui, c'est l'Église de Rome, malgré tout, avec sa pompe et tout ça, ça a quelque chose de... Enfin, c'est pas son monde, c'est pas son univers, et c'est pas ce à quoi il aspire. Et donc, ils sont tout à fait dans une autre... Dans un autre système.
À côté de cet aspect des hommes francs, directs et plus ou moins diplomates, avez-vous pu sentir l'aspect quand même des hommes de prière, des spirituels ? Parce que très souvent, on voit dans les cardinaux avant tout les figures politiques de l'Église, politiques internationales, et quand même peut-être au moins les pasteurs, peut-être au moins les guides spirituels.
Non, il y en a qui sont, je peux dire qu'il y en a au moins la moitié dont on sent que qui sont d'abord dans la mission pastorale, et d'abord une chose importante, c'est-à-dire qu'ils ont aussi passé les trois quarts de leur vie à exercer un ministère, à avoir une mission pastorale, et là ils sont un peu passé à autre chose, mais des 20 cardinaux que j'ai vus, ils m'ont toujours dit, attendez, à cette heure-là, je ne peux pas vous voir parce que je dois célébrer la messe à ce moment-là. Non, non, ils ne mettent jamais de côté cet aspect. C'est justement ce qui est un peu troublant, ce qui moi me troublait dans l'écriture, c'est que quelque part, ils restent toujours de simples prêtres aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ont des armoiries qui sont des habits flamboyants. Par exemple, les Africains adorent s'habiller en rouge. Il faut dire qu'on ne voit que Place Saint-Pierre. Ils sont magnifiques, ils sont flamboyants. Mais
pourquoi refuser une telle beauté au peuple de Dieu ?
Et en plus, ils ont plein d'habits liturgiques. On leur en offre plein comme ils aiment ça. Ils ont des tas de croix pectorales magnifiques et tout. Mais il n'empêche qu'il ne serait pas question de ne pas célébrer la messe le matin. D'ailleurs, ils m'invitaient, les cardinaux africains, ils m'invitaient toujours à leur messe le matin. Ça ne m'amusait pas toujours parce qu'ils la célèbrent à 7h30, mais je n'osais pas dire non parce que je faisais pour le climat de l'interview, il fallait dire oui. Donc, il n'est pas question de ne pas célébrer. Et ça fait partie, voilà. Ils sont en plus cardinaux romains, mais ils sont quand même d'abord simples prêtres. Et ils ne veulent pas, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ne veulent pas justement perdre cette dimension, parce qu'ils se disent que s'ils perdent cette dimension-là, ils perdent le sens des réalités.
Et précisément, le sens des réalités, peut-on penser que les cardinaux, qui quand même, c'est un peu le club le plus fermé
du monde,
du monde.
C'est plus fermé que le club des chefs d'État, oui. Ils sont moins nombreux, ils sont 112 votants, donc c'est plus fermé, oui.
Et pouvez-vous, vous semble-t-il, qu'ils sont plus déconnectés de la réalité immédiate des gens que le sont les leaders politiques?
Non, je ne crois pas, pour deux raisons. D'abord, ils sont, comme dit le cardinal africain, hautement informés. Ils ont des réseaux d'information fantastiques. Et ensuite, quand les gens viennent leur parler, ils ne leur mentent pas. On ne ment pas à un prêtre. C'est la dernière personne, ou peut-être la seule, auprès duquel on va se confesser en pensant qu'on n'est pas jugé. Et donc, on ne leur ment pas. Et je leur ai posé mes 36 questions sur des tas de sujets. Je les ai trouvés extrêmement informés. Et je vais vous faire part d'une petite anecdote qui n'est pas tout à fait convenable, mais qui était assez drôle. Quand j'étais en train de faire ces interviews, Paris Match, à ce moment-là, a sorti une couverture un peu osé, on voyait la femme de Bernard-Henri Lévy dans son plus simple, enfin, nu. Et une très belle couverture d'ailleurs, enfin, et j'ai abonné un certain nombre de cardinaux romains que j'aime bien à Paris Match. Simplement, le journal n'était jamais arrivé jusqu'à eux, parce que cette couverture étant très séduisante et étant sous film plastique, elle n'était pas arrivée jusqu'à eux. Alors, il y a deux cardinaux tout à fait différents. Un qui m'a dit, oh, écoutez, je crois qu'il y a eu la femme de Bernard-Henri Lévy, parce que c'était sorti dans les journaux italiens, ils avaient montré la photo, qui a eu une photo très amusante, il y a eu un petit problème, j'ai pas reçu Paris Match, est-ce que vous croyez qu'éventuellement, je lui ai dit, éminence, vous inquiétez pas, je vous l'envoie sous papier Kraft, fermé. Et un autre cardinal qui n'a pas procédé de la même manière et qui m'a dit, est-ce qu'il y a des grèves en France depuis plusieurs semaines? Je dis, pourquoi éminence? Il m'a dit, c'est désolant, le dernier numéro ne m'est pas arrivé. Donc dans les deux cas...
Évidemment, la question de la grève, c'était un pur jeu d'esprit.
C'était une façon très diplomatique de demander le journal. Parce que alors là, ils sont là aussi beaucoup plus diplomates que les hommes politiques parce qu'ils ont des ruses. Et alors quand ils... Comme ils sont très diplomates, quand ils veulent dire une chose comme ça, un peu, tout à coup, leurs yeux brillent et voilà, ils réussissent pas à mentir.
Bon, ben ça, je pense que ça doit être plutôt agréable pour l'interlocuteur. Une autre question, vous abordez à plusieurs reprises avec plusieurs cardinaux la question des rapports interreligieux et particulièrement les rapports avec l'islam. Je pense en particulier évidemment au cardinal Torrent, originaire de notre ville, Bordeaux, qui est très fier d'avoir deux cardinaux, cardinal Ricard, notre archevêque.
Je fais une parenthèse, c'est un très bon cuisinier, il a la meilleure table de Rome parmi les cardinaux. Et là, évidemment, la meilleure cave.
Vous semble-t-il que ces gens-là, bon, je ne parle pas du patriarche de Bagdad, c'est tout à fait évident, sont réellement préoccupés par la question des rapports avec l'islam?
Très préoccupés. Je pense que c'est la vraie préoccupation pour eux, c'est celle-là.
Et serait-ce les rapports avec l'islam plus que les rapports avec d'autres religions?
Oui, parce que, bien sûr, la puissance, l'organisation, évidemment que ça les inquiète beaucoup. Alors, ils sont partagés entre le raconter, parce qu'ils font part de leurs inquiétudes, et ne pas en parler, parce que, reprenant les vieux réflexes qu'avait Jean-Paul II, qui considérait que il valait mieux pas parler des choses que d'en parler, que ça. Mais évidemment, c'est sans doute leur plus grande préoccupation, c'est la place, c'est la place de plus en plus grande que prend l'islam. Ils en sont très conscients depuis. Enfin, ils s'en rendent bien compte. Surtout, c'est une génération qui a très bien compris parce qu'ils ont vu tout à coup l'influence grandissante de l'islam.
Vous avez quand même rencontré pas mal de monde, et parmi ces gens-là, qui vous a marqué le plus dans le
contact? Mais à propos de l'islam, il y a juste un truc drôle, je pensais à ça. C'est le cardinal, un des cardinaux, qui est le cardinal argentin, qui est un homme très amusant, qui dînait un soir avec un évêque qui était un évêque de l'église grecque, enfin de l'église catholique orientale, et un prêtre de l'église catholique orientale, et qui avait toute sa famille, parce qu'ils ont toute leur famille. Il pleuvait beaucoup à Rome, alors il était très inquiet, parce que ce prêtre lui a dit, mais vous inquiétez pas, ma femme va arriver avec un parapluie. Et il a sursauté, parce que évidemment c'est pas un vocabulaire. C'était le cardinal Sandri, c'est pas évoqué bien, qu'ils ont l'habitude, ne vous inquiétez pas, ma femme est très prévoyante, elle va venir nous chercher avec un parapluie. C'était un peu comme ça.
Donc, je disais tout à l'heure, avant de vous couper, parmi ces gens-là que vous avez rencontrés, il y a sûrement des personnalités qui vous ont marqué plus que d'autres.
Je crois que... Bon, d'abord, au départ, j'en avais sélectionné 26 pour en garder 20. Donc il y a la sélection naturelle. Il y en a un qui est devenu qui a changé d'avis, qui a plus voulu, parce que je l'avais interviewé, mais il est devenu entre temps un ministre important. Il m'a dit, je viens d'arriver comme ministre, je peux pas tout à coup parler. Il y en a un, quand je lui posais des questions, il se mettait à bâiller. Alors j'ai pensé que on n'était pas fait pour aller plus loin. Il y en a un troisième. Il disait, les questions que vous me posez sont très intéressantes, mais je ne peux pas répondre. Enfin, il y a une sélection naturelle qui s'est faite. Donc, il en est resté 20. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnages... Il y a l'émotion, il y a la respectueuse complicité, et il y a des gens qui en imposent tellement, qui vous impressionnent terriblement. C'est les trois... Alors, ceux qui en imposent... Et il y a une espèce de forme de sévérité qui fait qu'il y a des gens qui en imposent, mais en même temps, ils étaient tous... Je veux dire, on ne peut pas faire ce genre de livre si on n'entre pas dans une relation de confiance, parce que c'est trop dur, c'est des questions trop... Ils n'ont pas, comme vous avez pu le voir, utilisé la langue de bois. Donc s'il ne s'instaure pas un rapport, je ne vais pas du tout jusqu'à dire d'amitié, mais de respectueuse complicité... On n'avance pas, on arrête en cours de route, c'est pas. Mais il y a des gens qui sont, on a l'impression, ils sont là, et puis tout à coup, il y en a deux qui sont. Et alors, il est sûr que le cardinal Maradiaga, qui a un vocabulaire, qui vous parle avec une telle franchise, avec des mots tellement forts, par exemple de la corruption.
C'est le premier cardinal d'Honduras.
Oui, c'est le premier cardinal de l'histoire de Honduras qui vous parle avec une telle franchise, une telle violence des problèmes de son pays. D'ailleurs, le président Zelaya, aujourd'hui, encore a eu des problèmes. Le président Zelaya, qui était son élève quand il est chez les pères de Don Bosco, c'est-à-dire chez les Salésiens. C'est sûr que... surtout, il parle beaucoup du président Zelaya. C'est sûr que c'est assez impressionnant. Le patriarche de Venise aussi est un personnage qui en impose, qui est en plus assez sévère. Mais alors là, je ramais, parce qu'il me disait des choses tellement compliquées que je passais la nuit dans le dictionnaire pour comprendre, avec des phrases en latin, là, qui me dépassaient complètement. Et puis, justement, le cardinal Erdo, qui est aussi... personnage, et puis le patriarche de Bagdad, parce qu'on ne peut pas ne pas être ému par un personnage aussi extraordinaire, qui vit au milieu des bombes, qui continue, qui n'est pas protégé, qui ne veut pas être protégé, qui dit mon rôle, je vis au milieu des chrétiens d'Orient, des chrétiens minorités, tous les chrétiens, la diaspora d'ailleurs de son pays, ils ont pratiquement tous quitté les chrétiens. Et quand on voit ce petit personnage qui a une telle force, qui a un tel regard, on ne peut pas ne pas être impressionné, parce que lui aussi, il en impose. Il y a le cardinal Pulic de Bosnie-Herzégovine qui aussi dégage, lui, une joie, un optimisme. Il dit, moi, avec tout ce qui m'est arrivé, c'est déjà tellement magnifique que je sois en vie, je ne vais pas en plus me plaindre. Donc, c'est vraiment, chacun a sa personnalité. Et ce qui est assez bien, c'est qu'ils ne l'ont pas étouffé au cours des interviews. Elle est vraiment ressortie. C'était ça qui est important, je crois.
Presque tous ces personnages ont été créés cardinaux par Jean-Paul II. Et c'est un peu, je ne dirais pas l'ombre qui plane, mais on sent la présence de cette personnalité. Vous semble-t-il qu'il continue toujours de marquer?
Alors, justement, j'ai jamais voulu poser la question, parce qu'il est très clair qu'ils sont, au fond, pour la plupart, plus proches de Jean-Paul II que du pape Benoît XVI. Mais je ne voulais pas les mettre dans une situation où, là, ils auraient été obligés, évidemment, de me dire des choses extrêmement respectueuses sur le pape Benoît XVI, d'ailleurs, qu'ils respectent beaucoup, qu'ils admirent comme grands théologiens, mais dont ils sont moins proches, pour une raison aussi très simple, c'est qu'ils les voient très peu. Ils voient très peu ces cardinaux, beaucoup moins que les voyait le pape Jean-Paul II. Je ne voulais pas les mettre dans une situation difficile, donc je n'ai pas posé cette question. J'aurais juste demandé ce que ça leur faisait, l'émotion qu'ils avaient ressentie le jour où ils étaient devenus cardinaux, et là, ça leur permettait de parler du pape qu'ils avaient créé cardinaux. Mais je n'ai pas voulu entrer dans cette logique-là parce qu'elle n'était pas favorable au pape Benoît XVI. Je me suis dit, c'est pas la peine d'être désagréable. Alors de les obliger à être extrêmement diplomates, donc à ne rien dire.
En même temps, il y a l'interview avec le cardinal Zivic, extrêmement proche du pape, son secrétaire personnel, qui ne parle pratiquement que de Jean-Paul II.
Oui, mais ça, il m'avait dit, c'était le jeu de l'interview, il m'avait dit, écoutez, moi, ça me... je ne parlerai pas du pape Benoît XVI, est-ce que ça vous dérange? Je dis non, ça ne me dérange pas, c'est votre choix. Et justement, je pense qu'il fallait respecter, adapter à chaque personnage et ne pas uniquement l'interview. Il y avait des questions communes, un tronc commun à tout le monde, et après ça, il fallait les laisser chacun dans leur domaine s'exprimer.
Vous avez interviewé pour votre livre le cardinal Barbarin, vous avez interviewé le cardinal Torrent. Dans un des derniers interviews, on évoque l'Église de France vue de l'Italie. Vous semble-t-il qu'il y a une spécificité française dans la vie cardinaliste? Vous avez interviewé le cardinal Poupart aussi.
Oui, mais il a fait l'historien du livre, parce qu'il fallait un cardinal historien. Je trouve pas. Non. Je trouve que les cardinaux français qui sont à Rome, ils sont vraiment différents parce que le cardinal Torrent est un grand diplomate et un homme très calme, très posé, qui a un grand recul sur les événements, qui a vu beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas avoir été pendant 12 ans le ministre des Affaires étrangères du pape Jean-Paul II, avoir été aussi proche, avoir au fond été au troisième étage, l'étage noble du Vatican et... ne pas avoir un énorme recul face aux événements. Mais c'est un homme très calme, qui n'a aucune acrimonie, qui ne dit jamais « c'était mieux avant, c'est moins ». Enfin, il n'est pas dans la nostalgie, il est dans l'efficacité. Le cardinal Barbarin est tout à fait différent, parce que lui, c'est un manager, c'est un chef d'entreprise des âmes à Lyon. Et il est tout à fait dans la nouvelle génération des cardinaux. Il y a plutôt une typologie, je dirais, de la jeune génération de cardinaux, plus que des cardinaux français. Parce que lui, il a un style, c'est tout à fait autre chose. L'efficacité.
De la jeunesse, plus que dans l'expérience, peut-être.
Il dit, avançons, il vaut mieux avancer que faire de la théologie. Mais en même temps, il a donné des bibles, il a fait imprimer des bibles pour tous les Lyonnais. Enfin, chef d'entreprise, des âmes.
La dernière question, avant de laisser place aux questions de nos auditeurs, vous semble-t-il qu'il y a un certain recul, une méfiance des cardinaux vis-à-vis des médias? Parce qu'il y a toujours cette question des rapports très, très complexes entre l'Église catholique et les médias.
Il y a plus qu'une méfiance ici. Quand j'ai un peu regardé, d'abord, si un livre comme ça avait déjà été fait avant de le lancer, ça n'avait jamais été fait. C'est vous dire la méfiance. Et ensuite, il donne pratiquement, par exemple, le cardinal américain, le cardinal Francis George, primat de l'Église américaine, il ne donne pratiquement jamais d'interview. Et si vous remarquez, quand il donne une interview dans un journal, en France, que ce soit le Figaro, ça fait la une des journaux, il donne très peu d'interviews parce qu'ils sont très méfiants, parce qu'ils pensent que les journalistes vont les transformer, parce qu'ils n'ont aucune confiance, qu'ils pensent qu'ils ne vont pas leur faire relire. Non, ils sont extrêmement méfiants. Et d'ailleurs, ils sont rester très méfiants avec le téléphone, parce qu'on ne leur téléphone pas, on ne leur envoie pas de mail, et on ne leur envoie pas de fax. C'est pour ça qu'il faut être toujours... C'est vraiment un livre en direct, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça se fait ou ça ne se fait pas, mais il n'y a pas... Il y a très peu de papiers qui traînent. Voilà, ça c'est un réflexe général. Ça c'est la typologie des cardinaux en général, la méfiance.
Donc d'un côté, grande connaissance du réel, contact avec les gens, et en même temps un grand recul, grande réserve, le grande sens réserve, du poids des mots.
Le sens du poids des mots, et puis une forme de diplomatie, une forme de prudence, de diplomatie, de... Oui, oui, ils savent qu'on met 30 ans pour monter, 5 minutes pour redescendre au Vatican. C'est sévère, c'est violent.